Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme, apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je veux pas... enfin, écoutez-en, mais sachez que...
On est comme des gamins dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chante une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Absence qui parle de création contemporaine sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Pour cette rentrée, on est en compagnie de Clara Iannotta, compositrice, programmatrice, enseignante. Bienvenue Clara.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Bah, on est ravis de te recevoir et on va aborder ces trois facettes de ta personnalité qui en comptent, j'en suis sûre, bien d'autres dans cette émission. Et on est aussi avec Mickaël à la technique, enfin à la réalisation. Voilà, il est
sur
tous les fronts. Et on va tout de suite commencer par écouter un extrait de The People Here Go Mad, c'est Blame the Wind de Clara Iannotta. Pour clarinette basse, violoncelle, piano et 12 boîtes à musique, interprétées par le trio Catch. C'est ta première année en tant que directrice artistique du Festival d'automne, mais c'est un rôle que tu as déjà pu occuper dans d'autres festivals, le festival Blue Dancer notamment, si je ne me trompe pas, et le festival Klangspuran.
Exactement.
Donc j'aimerais qu'on parle un peu de ce métier, si c'en est un, de programmatrice.
Oui.
J'imagine que c'est beaucoup de choix entre des projets artistiques qui peuvent être tous aussi inspirants, qu'il faut parfois refuser des choses qu'on aurait envie de programmer. Comment est-ce que tu procèdes à ce choix? Est-ce que tu as des critères qui t'aident à définir une ligne? Ou est-ce que c'est vraiment au coup par coup, selon les rencontres? Comment tu procèdes?
Alors, disons que j'ai commencé à m'occuper des directions artistiques, des curations. Je ne sais pas en fait si ça existe, ces mots en français, curation. Oui, et que j'ai préféré d'ailleurs, en 2014. Et il est arrivé en fait, dans mes bras, ce métier, sans que j'ai rien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ancien directeur artistique du Festival des Blue Dance m'avait envoyé un mail en disant « Bonjour, un collègue à moi m'avait proposé d'aller écouter votre musique. J'ai écouté votre musique, j'ai voulu vous passer une commande pour mon festival à Blue Dance. Mais par contre, je me suis demandé, est-ce que vous voudriez faire la curation du festival pendant 2 années que je suis en voyage ?» Donc,
sympa.
J'ai commencé comme ça. Et moi, je lui ai répondu tout de suite, avec plaisir. Enfin, j'ai même pas attendu 5 minutes. Et en fait, la première année, je me rappelle très bien que ce que j'ai fait, c'était plutôt j'ai juste commandé et joué les pièces que j'adorais les plus, les compositeurs et les compositrices que j'adorais les plus. Et voilà, c'était presque un greatest hits de ce que j'aimais. Et puis, au fur et à mesure, par contre, j'ai commencé à comprendre non pas seulement le privilège que nous avons en tant que programmateur et programmatrice, et donc de créer l'espace pour quelqu'un d'autre. Et donc c'est un grand privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et donc à partir de là, j'ai commencé vraiment à essayer de comprendre tout d'abord ce qui se passe en Europe, à côté de moi, qui sont les voix qui sont représentées et qui sont les voix qui ne sont pas représentées, pourquoi elles ne sont pas représentées, etc. Et j'avais remarqué tout de suite, par exemple, qu'il y avait vraiment une certaine tendance, c'est-à-dire bah, à l'époque surtout, mais aujourd'hui on est dans la bonne direction, mais pas encore dans la, enfin, pas encore extrêmement représentative, disons. Mais j'avais remarqué plusieurs, disons, patterns qu'il y avait dans la musique contemporaine, notamment la marque de compositrice, ou sinon s'appuyer toujours sur la même esthétique, etc. Oui. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé vraiment à essayer de faire un choix, de essayer de montrer au public ce qui existe, et aussi essayer de leur montrer des choses qu'ils n'avaient jamais écoutées. Voilà, et donc ça, c'était vraiment le début. Et puis, en fait, surtout avec Joséphine Markowitz, qui était l'ancienne directrice du Festival d'automne, à qui je dois un peu toute ma carrière. Et elle m'avait parlé, enfin, elle était vraiment contre le mot programmation, et je n'avais jamais compris pourquoi. Et puis en fait, elle m'avait expliqué, on n'achète pas des projets, on imagine quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à faire la même chose que j'ai fait avec mes pièces. Donc dans la programmation, toutes les fois que je dois programmer une édition d'un festival ou même d'un concert, j'essaie vraiment de composer, de faire exactement ce que j'ai fait avec mes sons, mais avec l'esthétique et les sons des autres. Donc j'essaie de les mettre ensemble, etc. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai fait.
Ok, et tu nous parlais justement, juste avant l'émission, de projets que tu avais depuis longtemps et que tu as pu réaliser dans cette édition, donc le concert de jeudi 25, là, sur lequel on va revenir, et aussi le concert Eliane Radig, qui sera un peu plus tard. Donc tu as pu garder cet esprit-là du best of Clarinetta.
tout à fait. Bah, disons qu'en fait, quand j'étais à la direction, à la co-direction du festival Klangspuren en Autriche, j'avais parlé avec les Jazz Quartet, qui sont quand même un quatuor à cordes magnifique qui représente un peu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de créer les portraits Jack. Normalement, le festival d'automne, c'est dédié le portrait, consacre le portrait un peu à une personnalité, un homme. Et moi, j'ai pensé que c'était un peu difficile de me présenter pour la première fois dans la première édition dont j'ai fait la programmation avec un homme, une esthétique. Et par contre, l'équateur à cordes, donc la formation emblématique des musiques de chambre, voilà, dans la musique classique, Jack Quartet, en fait, il pousse tellement les limites de ce qu'un quatuor à cordes peut faire et peut encore imaginer, que on s'est dit, bah voilà, on consacre à Jack cette portrait. Et déjà en 2021, on parlait avec Jack de la possibilité de travailler avec Hélène Fulman, qui c'était aussi le rêve à Jack. Oui. Mais voilà, on n'avait pas les moyens dans ce festival de vraiment concrétiser cela. Et dès que nous avons décidé ici au Festival d'automne de consacrer le premier portrait au Jack Quartet, tout de suite j'ai parlé avec eux de faire cette nouvelle pièce de Hélène Fulman, et ça a bien marché. Et par contre, Eliane Radig est l'une des compositrices qui m'a toujours marquée. Et la pièce d'ailleurs, Aucun Océan, qui c'est sa première pièce pour orchestre, il avait déjà 80 ans quand elle a écrit cette pièce-là. Et pour moi, ça marque vraiment. Quand je l'ai entendue en CD la première fois, j'étais absolument blown away. Et donc, la pouvoir faire en direct, pour moi aussi, ça va être la première fois que je l'écoute en direct.
Génial.
Au Festival d'automne, c'est un peu, voilà, le rêve. Ouais.
Oh, c'est super.
Ouais.
Et justement, tu parlais d'une d'une idée de faire un portrait à chaque édition. Et c'est vrai que le festival, il est sans lieu fixe, il regroupe des disciplines très variées, c'est sur une longue période. Donc est-ce qu'il y a peut-être cette idée de portrait, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font son identité, son unité, ou est-ce qu'au contraire, l'idée, c'est de présenter des choses très diverses et d'assumer ce parti pris pour faire une sorte de panorama plus éclectique, où il y a vraiment une ligne directrice très forte?
Bah, disons que... d'un côté, en fait, le portrait. Alors, le fait que. Vous pouvez une seconde répéter
oui,
la question
sûr.
Désolée, je me suis perdue dans mes pensées.
Alors, il y a l'idée d'un portrait qui guide un peu certains concerts et qui fait un fil entre certains concerts, certains ouais. événements. Mais est-ce qu'il y a un fil rouge qui traverse tout le festival, ou est-ce que c'est plus quelque chose de traits divers et on assume ce parti-là et...
Oui. Non, en fait, alors, dans la musique, disons, nous avons quand même cette année, par exemple, en 2025, 83 productions. Donc, c'est impossible à oui. rester soit avoir qu'un fil rouge. Il y en a toujours plusieurs, en fait. Et dans la musique, nous avons, par exemple, plusieurs fils rouges, disons, plusieurs axes, grands axes que nous avons décidé de faire. Donc le premier, c'est bien évidemment le portrait.
Ouais.
Et le portrait, c'est plutôt en fait dédié... Les trois concerts sont vraiment la conséquence de l'autre.
Okay.
Donc c'est-à-dire que le premier concert avec Helen Fullman, c'est plutôt presque la projection de l'accord dans l'espace. Donc Helen Fullman, en fait, qui est connue pour avoir créé en 1983 le long string instrument. Donc il tire des longues cordes dans l'espace, très très longues, et puis pour les jouer, elle se balade.
Oui.
Sur ces cordes avec ses mains, elle produit des fréquences assez inouïes qu'on n'a jamais entendues. On la regarde bouger dans l'espace et l'espace commence à jouer avec elle.
Okay.
Et on sent vraiment les vibrations. Donc, le premier concert, c'est celui-là, la projection des cordes dans l'espace. Le deuxième, c'est plutôt la projection de l'instrument. L'instrument n'est plus que le corde, le violon, l'alto et le violoncelle, mais plutôt ça devient aussi le corps de musicien. Donc, en fait, dans la pièce de Natasha Dills, Beautiful Trouble, c'est un opéra, elle l'appelle un opéra pour quatuor à cordes.
Okay.
Et donc, les musiciens, ils ne jouent pas que leur instrument, mais ils bougent, ils interagissent aussi avec la vidéo, ils deviennent des acteurs. Et puis, par contre, en fait, le troisième concert, c'est la projection, enfin c'est on commence à on écoute d'une façon complètement différente, parce que dans cette pièce là et de Georg Friedrich Haas, le quatuor à cordes, le troisième quatuor à cordes, les Jack ils le jouent dans l'obscurité totale.
Ah oui.
Et donc quand on joue quelque chose dans l'obscurité totale, en fait on perd la perception de l'espace. On écoute d'une façon complètement différente. Dès qu'on ne voit pas, en fait, les autres sens commencent à se laisser ressentir d'une façon différente. Donc, les trois concerts, c'est vraiment faire trois... Presque essayer de créer trois expériences qu'on n'y aurait jamais au quatuor à cordes.
Oui.
Et qui aussi, c'est une perception de notre corps, de l'espace, de la vibration complètement différente. Et puis, par exemple, dans le deuxième grand axe de la musique... Elle est liée à autre chose, c'est-à-dire que cette année, 2025, c'est aussi le centenaire de Luciano Berio, aussi de Pierre Boulez, mais aussi de Luciano Berio. Et Luciano Berio, en fait, avait une approche très intéressante, non pas enfin à la musique, c'est-à-dire qu'il s'est confronté toujours avec la musique d'autres et aussi la musique des traditions différentes à la sienne. Il essayait toujours de prendre une musique d'autres et essayer de la filtrer avec son corps.
Oui.
Et donc, nous, on ne voulait pas vraiment faire un hommage à sa musique, mais plutôt à son approche,
oui.
vu que, surtout aujourd'hui, beaucoup de compositeurs et compositrices, en fait, ils jouent beaucoup avec la musique pop, la musique folk, la musique metal, etc.
Mm.
Et donc, nous avons choisi toute une série de compositeurs et compositrices et on leur a passé des commandes. Ils sont, en fait, des artistes qui ont déjà cette approche.
Oui.
Voilà, et donc, et après, il y a le troisième axe, c'est un peu comment on se rapproche à la partition, donc cet objet extrêmement important pour les compositeurs. Oui. Parfois, je me rappelle surtout au début, quand j'étudiais ici en France, la partition était presque, le procès quand même d'écriture était presque plus important qu'écouter la pièce même. Et par contre, dans cette édition, la partition s'épargne un peu.
Okay. Parce que, par exemple, c'est la vengeance.
Presque. Mais dans la pièce de Georg Friedrich Haas, par exemple, dans l'obscurité, et il y a une liste d'instructions. Presque.
Okay.
Bien évidemment, parce que ils doivent, les quatuors doivent jouer par corps. Et donc, en fait, on ne doit relier qu'avec les oreilles. On doit vraiment essayer de comprendre où, enfin, les directions sont données par l'écoute.
Oui.
De s'écouter avec les autres, mais sans vraiment, avec un guide écrit très en détail, mais quand même, c'est un guide. Ou bien il y a un radique dont la partition n'existe pas. Mais évidemment, il y a des images qu'il donne avec les musiciens, ou bien Ellen Fullman, dans la partition, c'est la vibration de l'air. Et voilà, donc ça sont un peu les trois axes, mais aussi, par exemple, avec Francesca Corona, ma collègue qui est la programmatrice, la directrice artistique des autres arts dans le Festival de Dole, on part toujours, en fait.
Oui.
La perte des traces, voilà, qu'il y a aussi, par exemple, dans plusieurs des pièces dans le Festival d'automne, c'est la perte des partitions de la musique, etc. Donc, on essaie toujours de, en fait, répondre à la même question avec différentes perspectives et donc différents artistes. Et ce qui donne cette regard tridimensionnel du Festival d'automne qui est très interdisciplinaire.
Oui. Oui, et justement, est-ce que... Après, il y a des dialogues qui arrivent à se nouer entre... Parce que justement, il y a plein d'arts différents, du théâtre, de la performance. Il y a le premier concert va être joué dans un musée, enfin à la Bourse de Commerce.
Oui.
Donc il y a des dialogues qui arrivent à se nouer entre les arts. Est-ce que tu as remarqué des correspondances
Oui, enfin, disons que de plus en plus, je pense que les artistes aujourd'hui ne se limitent plus à rester soit dans un esthétique ou même soit dans un art. Par exemple, j'ai parlé avec plusieurs artistes que j'ai toujours pensé à eux un peu comme des compositeurs, mais par contre, ils disent non, je ne veux pas être labeled comme un compositeur, je suis plutôt un artiste interdisciplinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, par exemple, François Chéniaud, qui a le portrait danse cette année, quand même, il y a énormément de musique dans ce qu'il fait. Ou bien parfois, j'étais, par exemple, il y a quelques jours au 104, dont le Festival de Dole a présenté en coproduction avec le 104 Borda d'Elia Rodriguez. Et il y a énormément de musique, même dans le silence, c'est-à-dire des images, des gestes, etc., qui créent quand même un rythme à travers les yeux. Et donc, avec Francesca, on part toujours de comment de plus en plus cet artiste ont croisé les limites.
Oui.
Entre les disciplines. Et ce que je trouve, c'est toujours de plus en plus intéressant.
Ok. Et ben, on va écouter maintenant une deuxième pièce de Clara Janota qui s'intitule They left Us Grief Trees Wailing at the Wall. Elle a justement été jouée par l'ensemble intercontemporain au cours du dernier festival d'automne en 2024. Mais là, c'est la version du Riot Ensemble, dirigée par Aaron Holloway Naum, qu'on va écouter.
Thank you.
et on écoutait un extrait de They Left Us Grief Trees Wailing at the Wall de Clara Janota. Donc Clara, ce sera aussi ta première année en tant que prof de composition au Conservatoire de Paris. Tu as déjà fait un rapprochement entre l'activité de programmatrice ou plutôt de curator et celle de compositeur, enfin de compositrice. Est-ce que tu fais aussi un rapprochement entre la pédagogie en quelque sorte et le curating de festival? Est-ce que pour toi il y a un but de faire venir le public ou bien donner à voir au public un état de la scène contemporaine?
Disons que, alors tout d'abord, il faut que je dise aussi que le Festival de Dun, c'était le rêve que je n'avais pas. C'est-à-dire, oui, je n'osais jamais rêver de pouvoir être à la direction artistique du Festival de Dun. Et le Conservatoire de Paris, par contre, enseigner au Conservatoire, c'est un peu le rêve que j'avais. Donc, je suis tellement ravie de...
C'est le jackpot. Pouvoir,
voilà, absolument. Alors, disons que, en fait, pour moi, les trois faces de ma vie, c'est-à-dire compositrice, directrice artistique et pédagogue, professeur, whatever, sont un peu la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, pour... tout d'abord, enseigner la composition, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode. Bien évidemment, on peut enseigner les techniques, on peut enseigner notre propre technique pour que les élèves puissent après développer la leur. Mais disons que de plus en plus, les cours de composition sont plutôt des discussions. Oui. Essayer de rentrer dans leur tête et leur donner une perspective différente. Essayer de regarder en fait ces concepts que peut-être ils ont. Et ces concepts, ça peut être un son, ça peut être une image, quoi que ce soit. Et la regarder de façon différente. Ah, qu'est-ce que j'ai fait si j'ai la bouche un tout petit peu comme ça? Donc, ça donne toujours des challenges aux élèves. Enfin, on leur met à disposition notre expérience. Mais après, ça nous donne aussi... Enfin, à moi, ça me donne énormément. J'apprends tellement de choses. Je reste en contact avec les nouvelles générations de compositeurs et compositrices. Et donc, j'apprends aussi à nouveau à regarder des sons, la forme, la temporalité, mais aussi la scène musicale d'une façon différente. Donc, honnêtement, ça me prend beaucoup de temps, oui, parce que les jeunes, prennent tellement d'énergie de nous. Je suis morte à la fin de la journée quand j'ai fini mes cours. Mais en même temps, j'évolue, j'apprends. Et j'échange aussi la façon de composer, et donc non pas seulement ma musique, mais aussi la musique en programme dans les festivals, grâce à eux.
Oui.
Et donc voilà, ça fait partie vraiment du même job. Et aussi, l'une des choses les plus intéressantes, c'est que je peux toujours discuter avec eux et leur apprendre à combien le choix curatorial, on le fait toujours. Et le pouvoir, donc, même un jeune musicien, compositeur, peut avoir dans notre programmation et dans la scène musicale. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'il y a différents poids de choix qu'on fait, mais ils doivent savoir, dès qu'ils commencent, que leur choix curatorial, il est là, il est très puissant. C'est-à-dire, par exemple, pour un musicien, les pièces que je mets dans le programme, déjà, quand ils sont des musiciens au conservatoire, qui choisissent quand même leur concert, le programme, oui, dans leur concert, c'est très important de savoir que ce n'est pas que de la musique. Enfin, il y a toute des raisonnements, des pensées qu'il faut faire. Il faut comprendre cela du début. Et donc, pouvoir le faire avec mes élèves, c'est extrêmement important pour moi.
Oui, ok. Et avant d'être prof à Paris, tu as aussi été professeur à Vienne.
Oui.
Tu as étudié en Italie à Milan avant d'étudier après à Paris. Est-ce qu'il y a des différences entre les traditions d'enseignement? Est-ce qu'on peut encore parler de traditions d'enseignement? Et du coup, maintenant, tu as aussi un regard de curateur. Est-ce que tu dirais que ça donne aussi des traditions musicales de composition différentes selon les pays? Surtout que le Festival d'automne est hyper international. Donc, Est-ce que tu remarques qu'il y a encore des sortes d'écoles nationales où c'est complètement dépassé et maintenant c'est vraiment une scène complètement internationale, complètement mondialisée?
Bah, disons que, bien évidemment, je remarque toujours qu'il y a une différence dans la scène musicale dans chaque pays. Et je le vois non pas seulement quand je vais au festival, etc., mais aussi quand ma musique est jouée, par exemple, en France ou en Allemagne ou aux États-Unis. Le public, en fait, a des attentes absolument différentes. Ce qui marche, par exemple, en Allemagne, ne pourrait pas marcher peut-être en France. Ou quand même pose un challenge différent au public. Donc, bien évidemment, il y a des scènes musicales très, très, très différentes. En même temps, aujourd'hui, quand j'étais élève, disons que donc, maintenant, il y a 20 ans, que j'étais venue ici en France, par exemple, j'avais remarqué tout de suite une différence énorme entre l'Italie et la France. C'est-à-dire, en Italie, par exemple, peut-être je pouvais aller à 20 concerts de musique contemporaine et c'était à peu près la même esthétique tout le temps. Et puis, dès que parce que je suis arrivée ici, tout d'abord en Erasmus et puis je suis restée. Et là, ici à Paris, en fait, il y avait 4 concerts dans la même soirée tous les jours. Et donc, en fait, j'étais absolument submergée de musique, ce qui c'était magnifique parce que, surtout quand on est jeune, on est en formation encore, il y a notre formation ou quand même notre esthétique, notre pensée est surtout affectée par ce qu'on entend.
Oui.
Non, parfois, surtout quand j'étais en Italie, en fait, j'écrivais la musique que j'écoutais. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée en France, j'écoutais tellement de musique que je suis arrivée à comprendre ce que je n'aimais pas. Avant, je ne savais même pas ce que j'aimais. Et ça m'a appris énormément de choses. Et puis, à un moment donné, dès qu'on a un peu d'expérience, on peut commencer à imaginer la musique, même si peut-être ça n'existe pas encore, whatever. Mais donc, aujourd'hui, bien évidemment, je trouve que oui, il y a encore, disons, des esthétiques liées. Je ne suis pas sûre, en fait, liée à la culture aussi, mais aussi liée à une scène musicale peut-être qui a déjà une grande force en Allemagne. Par exemple, en fait, Helmut Lachenmann, qui est l'un des noms aujourd'hui, il a 90 ans, et l'un des grands noms allemands, est arrivé tout d'abord en Allemagne et puis en France. Voilà, donc il y a bien évidemment des choses qui sont liées à la culture, à la scène musicale, mais aujourd'hui, surtout avec Internet et aussi une façon, disons, une facilité à voyager aussi parce que c'est un peu moins cher, etc. Je trouve que de plus en plus, les artistes, les scènes, les esthétiques commencent vraiment à s'émêler. Et voilà, donc c'est l'esthétique d'aujourd'hui et les scènes musicales d'aujourd'hui sont bien plus différentes, variées et aussi parfois aussi radicales que voilà, il y a 20 ans quand j'étais encore élève.
Oui.
Et c'est pour ça, je pense aussi que tous les artistes sont toujours à la limite de l'interdisciplinarité. Ils peuvent tout faire.
Ok.
Ouais.
Ok. Et tu nous parlais, là, il y a quelques instants, des discussions que tu avais avec tes élèves.
Oui.
Est-ce que toi, en tant qu'élève, il y a des discussions avec des professeurs qui t'ont marqué et qui te suivent encore aujourd'hui et auxquels tu fais appel même maintenant? Ou est-ce que vraiment tu as pris ton envol un peu de toute cette expérience et tu as fait ton miel perso?
Bah, disons que, surtout dans la musique, il y a des concepts qui se répète beaucoup, mais qui change au fur et à mesure. Il y a des choses, par exemple, que j'avais entendu dire de mes professeurs quand j'étais élève, que je n'avais pas compris, ou bien que j'avais compris d'une façon, et puis ils ont évolué énormément pendant ces 20 ans. Par exemple, je me rappelle très bien, en 2011, l'un des compositeurs que j'adorais le plus, que c'était Pierluigi Billone, un compositeur italien, que par contre j'avais rencontré en Russie quand j'avais fait un workshop là-bas. Et lui, il m'avait parlé, il m'avait dit « La forme, c'est l'espace tur dans son. » Et là, autant que jeune élève de composition, je n'avais rien compris. Mais j'avais signé, j'avais noté la phrase et j'ai continué à la regarder. Je me disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle de temps, mais par contre on le définit comme espace? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc, en fait, il y a toutes des choses quand j'étais encore élève en composition, que je n'avais pas compris et que peu à peu, en fait, on écoute différemment. Je me rappelle très bien, par exemple, et ça c'est juste en fait une métaphore si on veut, mais quand j'étais arrivée en France, je ne parlais pas du tout français. Et j'ai commencé à apprendre, bien évidemment. Et après, au bout d'une année que j'étais ici à Paris, j'ai entendu la différence entre « ou » et « u ». Et c'est ça, en fait, ce qu'on fait avec la musique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Il faut du temps et à un moment donné, boum, il y a la lumière qui s'allume. Et on comprend quelque chose. Et j'ai passé les dernières 20 années à faire ça. Et j'espère de continuer à avoir à cette illumination à un moment donné. Ah voilà, j'ai compris maintenant. Voilà.
Ok. On va parler un peu de ta musique maintenant. Mm-hmm. Tu parles beaucoup du côté visuel de ta musique, qui est pour toi indissociable, si je ne me trompe pas, du côté auditif. Comment ça se manifeste plus précisément? Est-ce que tu penses par couleur ou par image quand tu composes? Ou est-ce que c'est plutôt des choses qui viennent après, à l'écoute de ta propre musique aussi?
Oui, enfin, disons les deux. C'est-à-dire moi, je devais faire une petite... je dois raconter une anecdote pour ma mère. Parce que c'est très lié à ça, c'est-à-dire ma mère avait eu un cancer de la langue, elle avait perdu complètement sa langue. Et donc, dès qu'elle avait eu cette opération, en fait, elle ne pouvait plus parler. Et donc, avec la famille, on avait commencé à penser, à apprendre, par exemple, un peu les gestes, donc la langue des gestes. Et on s'interrogeait, en fait, sur le silence, de comment pouvoir communiquer sans son, et avec les yeux, avec d'une façon différente. Et puis ma mère, qui était un peu un super-héros pour moi, elle a recommencé à parler, même s'ils avaient dit qu'elle ne pouvait plus. Mais en fait, elle n'avait pas des problèmes cognitifs, elle parlait, et elle n'a rien changé de sa façon de parler. C'est-à-dire qu'elle parlait comme je parle aujourd'hui, moi. Mais les sons qu'elle produisait, vu qu'elle n'avait plus en fait sa langue physique, étaient très difficile à comprendre. Okay. Mais bien évidemment, avec ma famille, on ne voulait pas lui demander tout le temps « Quoi ? Est-ce que tu peux répéter ?» Elle avait déjà... Enfin, c'était tellement difficile pour elle que donc, en fait, on a décidé d'essayer de comprendre. Mais on a aussi compris qu'on ne pouvait plus utiliser que les oreilles pour comprendre ce qu'elle disait. Et donc, notre écoute a commencé à devenir physique. On devait la regarder pour comprendre. Et dès que j'avais compris ça, après quelques années, en fait, je me suis rendu compte de cette écoute physique que j'ai faisais avec ma mère. J'ai commencé à vouloir la même chose avec mes sons, c'est-à-dire une expérience en fait qui va au-delà de l'écoute, enfin des oreilles. On n'écoute pas que avec les oreilles, parce que sinon, en fait, la communauté des sourdes, en fait, ils disent toujours que être sourd, c'est une façon différente d'écouter. Et moi, j'y crois énormément. Et donc, en fait, j'ai commencé à utiliser, imaginer les sons de façon différente, c'est-à-dire j'ai créé un espace. C'est pour ça, voilà, la temporalité que ça devient, en fait, l'espace devient une métaphore de temps dans ma musique, un peu, quand même, dans ma recherche. J'ai commencé à créer des espaces sonores dont on cherche, nous, le son. On fait un écoute actif, si on veut, bien évidemment. Et c'est ce que je vois beaucoup dans ma musique, surtout dans les gens qui viennent écouter mes concerts, c'est qu'ils bougent dans leur chaise, ils cherchent les sons avec les yeux. C'est très intéressant de voir ça. Donc, bien évidemment, j'ai poussé aussi cet aspect au-delà de ça. C'est-à-dire, j'utilise maintenant aussi beaucoup de choses visuelles, soit la vidéo, soit les mouvements, etc. Mais le son, même que le son, est déjà extrêmement visuel. À un moment donné, j'avais fait une collaboration avec un vidéaste qui s'appelle Peter Tchaikovsky. Et lui, il avait fait cette court-métrage de 10 minutes qui s'appelle Outer Space. Et il m'avait montré la vidéo. Et si vous voyez, c'est sur Internet, cette vidéo Outer Space de Peter Tchaikovsky, un vidéaste autrichien. Et dès qu'il m'avait montré la vidéo sans son, c'était déjà une expérience sonore pour moi. En fait, je l'ai dit tout de suite et je suis désolée, vous n'avez pas besoin de son. C'est déjà sonore. Et puis bon, on l'a travaillé quand même. Mais, et donc voilà, c'est le son, ça va bien au-delà des oreilles.
Ouais. Génial. Bah, on va essayer d'avoir une expérience visuelle et écouter You Crawl Over Seas of Granite par le Quatuor Pulse dans une version de novembre 2022.
Thank you.
Et on écoutait un extrait de You Crawl Over Seas of Granite par le quatuor à cordes Pulse, mais qui a justement été composé par Clara Nota pour le Jack Quartet, qui sera donc en concert au Festival d'automne à plusieurs reprises. Pour revenir un peu à ta pratique de la composition, je trouve ça très intéressant parce que tu as beaucoup parlé de compréhension, peut-être plutôt par métaphore, mais du fait de comprendre ta mère, du fait de comprendre la différence entre le U et le OU, et de comprendre certaines phrases de compositeurs sur la musique. Est-ce que justement la musique pour toi c'est une façon de comprendre que ce soit les autres, le monde ou bien toi-même? Il me semble que tu avais aussi parlé de pas mal d'introspection dans d'autres circonstances de la musique comme introspection.
Oui, oui, tout à fait. En fait, ma façon de composer ou quand même de me relationner à la musique, c'est très égoïste. C'est-à-dire que je compose pour connaître moi-même. Et après, on partage en fait la connaissance. C'est-à-dire qu'à peu près tous les concerts que j'ai, c'est un peu comme le cauchemar qu'on a toujours d'être nu en face de tout le monde. Ça m'arrive à tous les concerts. voilà, mais c'est pour ça aussi en fait que... je pense que faire de la direction artistique, la programmation, c'est quand même un grand cadeau et un énorme privilège pour moi parce que c'est ce que je n'arrive pas à faire avec ma musique. C'est-à-dire, moi, j'écris pour moi-même, mais je sais en fait qu'il y a énormément de choses dans le monde, même dans la scène, dans les arts, dans la culture, etc., et aujourd'hui plus que jamais, qui ne va pas du tout et qu'il faut adresser. Je n'arrive pas à le faire à travers ma musique, mais j'arrive à le faire à travers la programmation parce qu'en fait, ça me donne la possibilité de créer une plateforme pour les autres, en fait, pour parler, pour un type de musique que je n'arrive pas à faire. Et donc ça, c'est vraiment un grand privilège. Voilà.
Oui. Donc la programmation du Festival d'automne, tu dirais que c'est presque l'anti-toi ou quand même pas à ce point-là?
En fait, ça dépend aussi parce que c'est vrai aussi que cette année, par exemple, au Festival d'automne, on a 12 concerts, 12 créations mondiales.
Ouais.
Et donc c'est aussi, ce que j'adore, c'est la prise des risques. Donc c'est-à-dire, on ne sait jamais ce que va se passer parce que c'est une nouvelle pièce. Parfois, en fait, nous, on apprend... par l'échec, ok, c'est-à-dire que, enfin, l'échec ou quand même le risque, la prise de risque, c'est absolument lié à la création musicale, à la recherche musicale, à la recherche artistique. Et moi, par exemple, en fait, les meilleurs souvenirs que j'ai, les choses que j'ai appris les plus, ce sont mes mauvaises pièces, les pièces qui n'ont pas marché. Quand une pièce marche, tu vas bien.
Ouais.
On rentre à la maison, on est super content. Si la pièce ne marche pas, on se pose plein de questions et on essaie de résoudre les problèmes. Et donc voilà, avec ces 12 créations qu'on va avoir cette année, en fait, on va voir parfois, bon, les pièces vont être hyper abouties. Et déjà, on va célébrer la beauté ou quand même quelque chose qui a vraiment réussi. Et quand elles ne vont pas réussir, moi, je vais quand même les célébrer et encore plus parce que je sais que l'aboutissement, il va réussir en fait dans deux pièces peut-être.
Oui.
Mais on avait besoin de cette étape-là pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc j'ai dit toujours aussi à mes élèves, il faut faire des mauvaises pièces.
Bah, c'est bien, comme ça, tu n'es jamais dégoûtée après une première.
Bah, parfois, oui, mais ça aide. Hein.
Oui, oui.
Ça aide, ouais.
Ok. Bon, bah, en espérant que quand même il n'y aura pas trop de mauvaises pièces.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quels sont les prochains rendez-vous au Festival d'automne, les concerts qui viennent?
Oui, alors en fait, on commence le 25, donc la semaine prochaine, ouais. Et avec Hélène Fulman et le Jack Quartet à la Bourse des Commerces, dans la rotonde de la Bourse des Commerces. Il y aura deux concerts dans le même soir. Et puis, on continue le 30 septembre à l'église Saint-Eustache, et avec deux pièces collectives avec aussi beaucoup de lumière, vous allez voir. Et on vient de rajouter une deuxième représentation dans le même soir parce que c'était complet et on avait une grande liste d'attente. Donc en fait, le premier concert, ça va être à 20h le 30 septembre à Saint-Eustache. Et la deuxième représentation, c'est à 22h le même soir. Et puis, on continue le 6 octobre à l'église Saint-Esprit avec Anseim, la mise en circuit avec Okanoshan d'Elien Radic et une création mondiale de François Bonnet. Et puis, on continue à l'IRCAM le 16 octobre. Et avec Rebecca Saunders, l'équateur Nickel. Et puis, en octobre seulement, on s'arrête le 24 avec l'ensemble contemporain. Et donc, on fait ses premiers concerts Berlioz. Donc, on célèbre les folk songs de Berlioz. Et on a deux créations mondiales de Nitzing et Zahra Ali, avec deux créations françaises de Eva Reiter et Sarah Glonarich qui vont célébrer cette approche Berlioz de musique à leurs proches, quand même, qui c'était très important pour eux. Et puis, on continue novembre et décembre.
Bon, ben, super, c'est un très beau programme.
Merci.
Ben, merci beaucoup, Cara Yanota, d'être venue dans notre émission. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir.
C'était un plaisir pour moi.
Ben, merci, Mickaël, à la technique. Et on se retrouve dans deux semaines sur le 93.9 pour le prochain Absence.
Dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chantent une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 est disponible en podcast.